Vous êtes avec Radio SBS en français.
D'après les Nations Unies, au total, près de 4 millions de personnes pourraient quitter l'Ukraine. Leur but est de fuir la guerre, déclarée par le président russe, Vladimir Poutine. Ils partent parfois en voiture, souvent en bus, voire à pied. Près d'un tiers d'entre eux se rendent en Pologne et au checkpoint frontalier. Ce sont plus de 100 000 personnes par jour qui arrivent épuisées. Emmanuelle Chaz est une journaliste française basée à Berlin, spécialiste des questions migratoires. Dès le début de cette guerre, elle s'est rendue à Rébéné, à la frontière polonaise. Elle nous raconte comment la solidarité s'est organisée en seulement quelques jours.
Quand je suis arrivée au point de Rébéné, où je suis restée pendant une semaine, ce qui était impressionnant, c'est que au jour d'arrivée, c'était lundi, donc c'était quelques jours à peine après le début de l'invasion, et rien n'était en place. En fait, ce qu'on voyait, c'était un petit feu de bois pour que les gens puissent se réchauffer, donc vraiment un feu de fortune pour apporter un peu de chaleur. Il y avait une grande bonbonne à thé et puis c'était tout. Après, sur les jours qui ont suivi, il y a eu des ONG qui ont commencé à arriver pour pouvoir distribuer des boissons chaudes, de la soupe, etc. Ça s'est mis en place très rapidement. Très rapidement, il y a eu des bus qui ont été organisés par le gouvernement polonais pour acheminer les gens qui venaient de passer la frontière dans des centres d'accueil. Ça, je l'ai vraiment vu se développer sous mes yeux. Et puis, évidemment, ce qui était impressionnant, c'est de voir les gens traverser à pied, qui arrivaient avec leurs petites valises à roulettes, qui regardaient sur leurs applications voir où ils se situaient et qui étaient complètement perdus. Ça, c'était vraiment très impressionnant.
Une vague humanitaire qu'elle a pu constater à la frontière, mais qui s'est aussi étendue sur tout le territoire polonais.
C'est intéressant de voir à quel point les Polonais se sont mobilisés, non seulement à la frontière, mais même dans la capitale. J'ai pu rencontrer des gens qui hébergeaient, qui ont immédiatement ouvert leurs maisons, les restaurants distribuent des repas gratuitement, certains hôtels aussi mettent des chambres de côté juste pour les réfugiés, évidemment c'est gratuit pour eux. Tous les transports en commun sont gratuits pour les Ukrainiens, et même quand les Ukrainiens arrivent en voiture à la frontière, on leur donne immédiatement tous les visas, même l'assurance auto, pour qu'ils puissent immédiatement, sans problème, circuler en Pologne. Donc ça, c'était aussi impressionnant à voir.
Rapidement, une polémique est née, celle de l'apparente distinction de traitement entre les réfugiés ukrainiens et les réfugiés étrangers.
Les gens que j'ai rencontrés m'expliquaient que souvent il y avait eu des problèmes pour monter dans les bus, monter dans les trains du côté ukrainien. Il faut savoir que pour embarquer, il y a une priorité qui est donnée aux femmes et aux enfants, ukrainiens d'abord, ensuite aux hommes. Alors il y a un screening au niveau des hommes, puisque les hommes en âge de se battre doivent rester dans le pays. Et après, ce sont les étrangers. Donc c'est vrai qu'il y a cette différence qui est faite. Après, j'ai aussi entendu des témoignages, donc pas directement, mais d'étrangers qui avaient des amis qui ont subi des discriminations raciales. Donc, c'est des incidents qui ont effectivement eu lieu. Après, ceux que moi j'ai vus ont pu passer la frontière en Pologne où souvent ils ont été accueillis par des représentants de leur ambassade qui les ont pris en charge.
Au-delà de la Pologne, c'est toute l'Europe qui semble mobilisée. La semaine dernière, la Commission européenne a appliqué une directive accordant la protection temporaire à toutes les personnes fuyant l'Ukraine.
Je travaille sur les routes migratoires depuis plusieurs années maintenant, donc j'ai déjà pu voir comment l'Europe accueille ou n'accueille pas justement un nombre important de personnes qui tentent d'arriver en Union européenne. Ce qui est vachement intéressant cette fois-ci, c'est de voir que finalement, lorsqu'il y a une volonté, ça fonctionne pas très bien, c'est vrai, mais en tout cas, par exemple, la Pologne est en train de réaliser un effort de solidarité qui est vraiment sans précédent, et l'ouvre ses portes à l'heure où on parle à plus d'un million de personnes, et c'est des milliers de personnes qui arrivent tous les jours encore sur le territoire polonais. Donc finalement, ce que ça met en lumière, c'est que l'Europe est capable d'accueillir, capable d'ouvrir ses frontières sans condition. Simplement, ce que ça met aussi en lumière, c'est le fait que c'est une solidarité, mais une solidarité qui est sélective, dans le sens où cette fois-ci, ça a été très simple, alors qu'il y a plein d'autres occurrences où ça n'a pas été le cas. Je pense à l'hiver dernier avec la crise humanitaire qui s'est déroulée à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, mais je pense bien évidemment aussi à la frontière maritime qui est celle de la Méditerranée, avec la Méditerranée centrale, qui est une route extrêmement meurtrière que des milliers de personnes tentent tout de même de prendre chaque année pour essayer de rejoindre l'Europe.
Et pour Emmanuelle Chaz, cet exode massif aura de grandes conséquences.
Je pense que l'impact, il sera énorme. Il sera non seulement humain, il sera également économique pour l'Europe. Le côté positif, c'est qu'on a vu que finalement, l'Union européenne, aussi divisée soit-elle sur les politiques à mener dans d'autres contextes, on a vu que l'Union européenne a réagi extrêmement vite, par exemple pour les sanctions, par exemple pour l'envoi d'armes. Chaque pays a décidé d'envoyer des armes à l'Ukraine, finalement, même si l'OTAN a bien spécifié qu'il n'interviendrait pas sur la zone. Ça aura forcément un impact, ça va changer nos sociétés profondément, ça changera notre démographie de façon profonde, mais je pense que l'Union européenne est capable d'absorber cette nouvelle population qui la rejoint.
En grande majorité, ces réfugiés n'ont pourtant pas l'intention de s'installer dans un autre pays européen à long terme. Leur souhait, c'est de retourner en Ukraine.
Ce qui pose problème, c'est que ce ne sont pas des personnes qui ont choisi de partir. C'est des personnes qui ont été forcées de partir puisque leur maison se trouvait soit menacée de bombes, soit vraiment sous les bombes. La plupart des Ukrainiens à qui j'ai parlé à la frontière n'imaginaient pas partir un jour et surtout ils n'imaginent pas rester dans les pays d'accueil. Pour eux, c'est une immigration qui est temporaire, qui n'est pas volontaire. Et tous ceux qui m'ont parlé m'ont dit, on espère que ça se finira bientôt pour qu'on puisse bientôt rentrer chez nous.
Il y a les millions de personnes qui fuient l'Ukraine, il y a aussi ceux, beaucoup moins nombreux, qui s'y rendent, de jeunes hommes qui prennent les armes et partent se battre.
Dans l'autre sens, la route était beaucoup moins fréquentée. Pourtant, il y avait quand même des dizaines d'hommes, souvent assez jeunes, qui s'étaient équipés eux-mêmes à leurs frais avec de l'équipement militaire, et qui repartaient se battre pour leur pays. C'est des Ukrainiens qui habitaient auparavant en Pologne, pour ceux que j'ai rencontrés, et qui, à peine l'invasion avait commencé, n'ont pas hésité une seule seconde. Ils se sont équipés, ils ont pris 2, 3 jours pour s'organiser, pour former un petit groupe, et ils allaient rejoindre l'armée ukrainienne. Donc, ils savent très bien en partant que l'armée ukrainienne est en situation d'infériorité par rapport à la taille de l'armée russe. Ils savent très bien aussi que l'issue pour eux ne va sans doute pas être heureuse. Et pourtant, il y a cet élan de patriotisme qui est assez impressionnant à voir. Ils sont partis vraiment sans hésitation pour se battre pour leur pays.
À ce stade, la guerre en Ukraine se poursuit depuis 2 semaines. Des milliers de personnes sont décédées, des soldats, mais aussi des civils, parmi lesquels des enfants. Des officiels russes et ukrainiens ont tenté de négocier à plusieurs reprises, toujours en vain.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.